VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les trois principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre battent campagne.
L'ex-président burundais Pierre Buyoya ne craint pas l'extradition après le mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités de Bujumbura.
Human Rights Watch a accusé hier les forces de sécurité du Mozambique de graves violations des droits de l'homme.
Funérailles aujourd'hui à Washington de l'ancien président américain George Herbert Walker Bush.
Enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le procureur spécial ne requiert pas de prison pour Michael Flynn, ex-conseiller du président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, à moins de trois semaines des élections du 23 décembre, les trois principaux candidats à la présidentielle battent campagne. Celui du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, affrontera une dizaine d'adversaires, dont deux ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et le député Martin Fayoulou. De Kinshasa, Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Après une première semaine timide qui a vu seul le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, se lancer à l'assaut des électeurs, les autres favoris de la présidentielle du 23 décembre 2018 ont rejoint la dynamique de la campagne électorale. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu mardi un meeting au stade Afia de Goma au Nord Kivu. Les deux leaders du ticket UDPS-UNC feront ensuite Bukavu le 6 décembre, puis Kisangani le 11. Martin Fayoulou est lui attendu mercredi à Beni, ville meurtrie de la province du Nord Kivu. Le candidat de la coalition Lamuka fera ensuite Butembo, Bunia, Goma, Bukavu, Kisangani, Buta, Isiro, et Kindu selon son équipe de campagne. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, a lui, après le Grand Katanga entamé par Gbadolite dans le nord Ubangi, la conquête de l'ouest et du nord-ouest de la RDC. Il ira à Gemena, à Lisala, à Bumba, à Bouende et à Mbandaka, des villes du Grand Équateur. Les autres candidats présidents de la République se contentent pour le moment des affiches banderoles et passages dans les médias et petits rassemblements à Kinshasa. Certains attendent que les conditions sécuritaires et matérielles soient réunies avant de se lancer dans la conquête du Congo profond. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, a affirmé mardi à Bamako qu'il ne craignait pas d'être extradé à la suite du mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice burundaise. Cette dernière l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, le premier président Hutu démocratiquement élu de son pays. « Je ne crains absolument pas d'extradition ni par le Mali ni par d'autres pays », a déclaré M. Buyoya, actuel représentant de l'Union africaine au Mali, au cours d'une conférence de presse. Il estime difficile de tenir un jugement équitable dans son pays, étant donné, je cite, « le bilan du gouvernement burundais en matière des droits de l'homme ».
À Madagascar, à deux semaines du second tour de la présidentielle, le 19 décembre, la campagne qui s'est ouverte hier promet d'être féroce, tant le passif entre les deux finalistes est lourd, Morgan Guiriec.
Marc Ravalomanane, arrivé deuxième au premier tour, affiche une confiance sans retenue. Il n'y a que 3 à 5% de différence entre moi et le candidat arrivé à la première place du premier tour, rappelle l'ex-président. Son adversaire, Andra Joël, a obtenu 39,23% des voix contre 35,35% pour Marc Ravalomanane. Pour refaire son retard, le chef du parti Team compte mobiliser les abstentionnistes, 46% au premier tour, et surtout s'attirer le soutien de quelques-uns des 34 candidats écartés du second tour. Élu en 2002, Marc Ravalomanane a été contraint de quitter la présidence 7 ans plus tard après une série de violentes manifestations soutenues par Andra Joël, alors maire de la capitale. Monsieur Rajoel a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les deux hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise.
Human Rights Watch a accusé hier les forces de sécurité du Mozambique de graves violations des droits de l'homme, dont des exécutions sommaires. L'organisation dénonce également la répression de l'insurrection islamiste dans le nord du pays. Irénée Herman Ungbo.
Sur la foi de témoignages recueillis depuis août, Human Rights Watch affirme que l'armée et la police ont pratiqué des dizaines d'exécutions sommaires et recours à des détentions arbitraires et aux mauvais traitements contre les suspects d'appartenance aux groupes extrémistes qui sèment la terreur dans la région. Depuis plus d'un an, ces islamistes présumés multiplient les attaques contre les civils et les forces de sécurité dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado. Le bilan de ces raids n'est pas officiellement connu, mais selon la population et la presse locale, ils ont fait plus d'une centaine de morts parmi les civils, détruit des dizaines de villages et provoqué l'exode de milliers de personnes. Il y a 8 jours, 12 personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée à ces islamistes près de la frontière avec la Tanzanie. Le président Philippe Nyusi a promis l'éradication de ce groupe et envoyé de nombreux renforts dans la région. Les autorités mozambicaines doivent immédiatement mettre un terme aux abus de leurs forces de sécurité et en déférer les auteurs devant la justice, exige le représentant de Human Rights Watch pour l'Afrique australe, Dewa Mavinga.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux partis réunis aujourd'hui à Genève sur l'avenir du Sahara occidental de s'engager dans des discussions de bonne foi, sans préconditions et dans un esprit constructif. Le point avec Nani Talani.
L'émissaire de l'ONU, Horst Köhler, réunit à Genève le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie pour les premières rencontres multilatérales depuis la suspension des pourparlers en 2012. Selon l'ONU, l'agenda des discussions prévoit d'aborder la situation actuelle, l'intégration régionale et les prochaines étapes du processus politique. L'objectif est de rompre la glace et de rétablir la confiance, notamment entre le Maroc et l'Algérie, aux relations particulièrement mauvaises. Le Polisario, qui a proclamé en 1976 une république arabe sahraoui démocratique, réclame l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Il contrôle 80% de ce territoire désertique, doté d'un littoral atlantique poissonneux et d'un sous-sol riche en phosphate. L'ONU maintient dans cette ancienne colonie espagnole des casques bleus en attendant l'organisation d'un référendum et garantit le respect du cessez-le-feu depuis 1991 entre le Maroc et le Polisario.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Funérailles aujourd'hui à Washington de l'ancien président américain George Herbert Walker Bush, décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans au Texas. Le président Donald Trump a rencontré hier soir la famille du défunt et assistera à ses funérailles à la cathédrale nationale avec ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton et leurs épouses Michelle et Hillary. La chancelière allemande Angela Merkel fera également partie des nombreuses personnalités attendues à cette cérémonie.
Le procureur spécial Robert Mueller ne recommande pas de peine de prison pour Michael Flynn, évoquant l'aide substantielle de l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur dans un document judiciaire officiel. M. Flynn a plaidé coupable d'avoir menti au FBI, la police fédérale, sur ses contacts avec Sergei Kislyak, alors ambassadeur de la Russie à Washington. Il avait aussi fait de fausses déclarations sur ses activités de lobbyiste en faveur de la Turquie.
Des sénateurs influents ont déclaré hier qu'il y a des indications écrasantes selon lesquelles le prince héritier Mohammed ben Salman était derrière le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le mois dernier au consulat de son pays à Istanbul en Turquie. Pour le président Donald Trump, en revanche, le cas contre l'homme fort de l'Arabie saoudite n'est pas convaincant. Et pour le sénateur républicain Bob Corker, président de la Commission des affaires étrangères, le prince héritier saoudien serait reconnu coupable en 30 minutes s'il se présentait devant un jury. M. Corker a tenu ses propos après une réunion à huis clos avec la directrice de la CIA, Gina Haspel.
En France, le gouvernement joue la carte de l'apaisement face à la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé 3 mesures fiscales, dont notamment la suspension des nouvelles taxes sur l'essence. Des détails avec Raïssa Girondin.
Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation, a déclaré dans son allocution le Premier ministre français. Il a annoncé 3 mesures pour tenter d'apaiser la crise des Gilets jaunes. Il s'agit de la suspension pendant 6 mois de 3 mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, la hausse de la taxe sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement de la fiscalité du gazole non routier. Enfin, il a ajouté que ni les tarifs de l'électricité ni ceux du gaz n'augmenteront comme prévu pour l'hiver. La concertation sur la transition face à la crise des Gilets jaunes se tiendra du 15 décembre au 1er mars. Cependant, les annonces du gouvernement pourraient ne pas suffire à calmer la colère des Gilets jaunes qui annoncent une nouvelle manifestation samedi alors que des dizaines de lycées sont à leur tour gagnés par une fronde ces derniers jours. 412 personnes ont été interpellées, 4 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées depuis le début des manifestations le 17 novembre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire va construire la première centrale électrique solaire flottante d'Afrique et augmenter ainsi la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Les installations se feront sur des plans d'eau, lagunes ou mers qui sont abondants dans ce pays. Cette centrale sera financée à hauteur de 80 millions d'euros par un prêt de l'Agence française de développement avec qui le gouvernement ivoirien vient de signer une convention pour une coopération renforcée dans le domaine de l'énergie durable. Le coton africain, connu pour sa qualité et qui représente près de 10% de la production mondiale, fait face à une rude concurrence et manque de subventions publiques, d'après des experts mondiaux de l'or blanc réunis à Abidjan. Ce coton lutte également contre les fibres synthétiques qui ont envahi l'industrie textile en Afrique. Pourtant, l'or blanc africain dispose d'un fort potentiel, celui d'être une culture tropicale. En plus, il a le gros avantage d'être récolté à la main, ce qui préserve mieux les caractéristiques de la fibre. Pour terminer, en forte baisse ces derniers mois, le rand, la devise sud-africaine, s'est refait une santé ces dernières semaines et a aussi bénéficié de la récente détente survenue entre le front de la guerre commerciale qui se livre les États-Unis et la Chine. En outre, les analystes anticipent en faveur de l'Afrique du Sud un taux de croissance de 1,8% pour 2018 alors qu'il était de 1,3% en 2017.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coton Sport de Garoua s'est qualifié pour le tour suivant en Ligue des Champions.
Oui, battu 3-1 à l'aller par l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, Coton Sport de Garoua a dominé le club burkinabé sur le même score de 3-1 au match retour. Les Camerounais ont décroché leur billet après les tirs au but. Dans les autres matchs, qualification également au tir au but pour le Jarafe de Dakar devant l'US Kuroki du Togo après un score d'un but à zéro à l'aller comme au retour. Pas de souci pour Oroya, déjà vainqueur 1-0, le club guinéen s'est imposé sur le même score au Libéria face au Barakonyang Contrôleurs.
Ça passe pour deux clubs ivoiriens en Coupe CAF.
Le stade d'Abidjan s'est incliné à domicile sur le score d'un but à zéro, un résultat qui fait l'affaire du représentant ivoirien qui, lors du match aller, s'était imposé en Mauritanie sur la marque de 2-1 face à Nouakchott Kings. De son côté, en déplacement à Banjula, le FC San Pedro, qui avait été accroché sur ses propres installations au match aller 1-1, est allé surprendre le Gambia Armed Forces sur la marque de 1-0. Les deux clubs ivoiriens sont donc qualifiés pour les 16e de finale. Le Hassania Dagadi s'est qualifié en allant faire un match nul blanc à Niamey face à l'association sportive de la garde nationale après un 4-0 à l'aller.
Trois arbitres africaines retenues pour le Mondial féminin 2019.
Parmi les 27 heureuses élues pour officier les matchs du Mondial féminin, on retrouve trois africaines, l'éthiopienne Abebe Lydia Tafese, la zambienne Ligwe Gladys et la rwandaise Mukanzanga Salima. Quatre arbitres du continent ont aussi été retenus pour les 48 arbitres assistantes, la malawite Quimbira Bernadetta, la kenyane Njorogi Marie, la malgache Rakoto Zafiniro Lidwin et la mauricienne Victor Quincy. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun représenteront l'Afrique à cette compétition qui aura lieu en juin 2019 en France.
Athlétisme, Kipchoge a été désigné athlète de l'année.
Et oui, le Kenyan de 34 ans a reçu hier à Monaco le prix d'athlète masculin de l'année, décerné par la Fédération internationale d'athlétisme. Eliud Kipchoge, auteur du chrono phénoménal de 2h1:39 lors du marathon de Berlin en septembre dernier, a été préféré au Français Kevin Mayer qui a battu le record du monde de décathlon. Chez les femmes, la triple sauteuse colombienne Catherine Ibargüen a remporté le prix. Basket, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Chicago 96-90, Orlando et Memphis 105-90, Dallas et Portland 111-102, Sacramento et Phoenix 122-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Situation sociopolitique tendue au Sénégal à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain. Cette situation inquiète les Sénégalais, comme l'indique dans ce reportage notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
À 3 mois de la présidentielle, la tension politique est perceptible au Sénégal. La bagarre à l'Assemblée nationale entre députés du pouvoir et de l'opposition lors de la séance de vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur vient mettre de l'huile sur le feu. À cela s'ajoute un front social en ébullition avec la grève des agents de la justice et ceux de la santé. Une situation qui désole les citoyens comme Samba Diop.
C'est une période extrêmement cruciale et par conséquent, il va falloir des comportements beaucoup plus citoyens et non pas des comportements, n'est-ce pas, de vente en guerre. C'est une élection des échéances très importante pour le Sénégal et ça doit redorer le blason, n'est-ce pas, sur le plan international. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent donner le bon exemple au niveau des plateaux de télévision ou bien d'autres plateaux, n'est-ce pas, qu'ils aillent dans le sens de l'apaisement. Je pense que c'est mieux.
Abdourahmane, marchand ambulant âgé de 35 ans, est toujours tétanisé par la tension politique que le Sénégal a connue en 2012. Voilà pourquoi il dénonce l'agitation et la violence dans l'échiquier politique du pays.
Si l'on poursuit sur cette lancée et si les violences continuent comme ça, ça risque d'être pire qu'en 2012. Les leaders politiques doivent montrer le bon exemple afin que l'on puisse avoir des élections libres, transparentes et sans violence. La bagarre à l'Assemblée nationale n'est pas digne de nos députés. Ils doivent avoir un peu plus de respect envers le peuple qu'ils représentent. Ils doivent avoir un bon comportement et bien faire leur travail. Mais se battre devant les caméras du monde entier, ce n'est pas digne et ce n'est pas ça leur boulot.
Trouvé devant sa maison 6 à Grand Dakar dans la banlieue dakaroise, Saliou Diaw indexe le parti au pouvoir et l'opposition. Selon le natif de Thiès, ils sont tous responsables de cette violence. D'ailleurs, ce jeune estime qu'il est temps que nos dirigeants mettent fin à certaines pratiques.
Pour moi, toute cette agitation traduit le manque de confiance de nos leaders. Les personnalités politiques doivent penser au futur. Chacun d'entre eux peut aspirer à diriger le pays et on ne peut pas diriger un pays dans la violence. Donc, ils doivent tous se ressaisir, penser au peuple et à la postérité. Je pense qu'il est temps pour eux d'avoir une attitude responsable afin de laisser une belle image pour la postérité.
Ce climat politico-social tendu inquiète au Sénégal, pays connu pour sa stabilité sociale et son hospitalité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, où une élection présidentielle est prévue dans quelques mois, le nombre de chômeurs a bondi de près de 30% cette année. 16 millions de personnes sont ainsi sans emploi, selon un rapport publié en novembre par le Bureau national des statistiques. 2 autres millions devraient être au chômage d'ici à la fin de l'année. Reportage de Timothy Obiezu, repris ici par Raissa Girondin.
Josh Okere, ce jeune Nigérian, se prépare de nouveau à descendre dans la rue à la recherche d'un travail, un exercice qu'il pratique depuis qu'il a obtenu son diplôme il y a 6 ans.
Vous quittez votre maison le matin sans savoir où vous allez. Vous avez simplement cet espoir, cette conviction que lorsque vous sortez, vous trouverez quelque chose.
Au Nigeria, le taux officiel de chômage a subi une augmentation de 30% cette année. Ils ne sont pas moins de 16 millions sans travail et l'on estime à 2 millions le nombre de chômeurs qui devraient rejoindre la liste d'ici la fin de l'année. Moins de 40% des quelques 200 millions de Nigérians ont un emploi à part entière. Pour l'économiste Eze Onyekpere, le chômage touche tous les secteurs de l'économie nigériane.
C'est aussi un produit des choix que vous faites dans votre politique commerciale, votre politique du travail, votre politique industrielle, même votre politique d'éducation, votre politique de santé. C'est simplement une démonstration de la confiance que les gens ont dans votre économie. C'est aussi question de la qualité des biens et services que vous produisez dans le pays. Nous avons donc un gouvernement qui, avec tout le respect que je lui dois, n'a pratiquement aucune idée de la politique économique.
Le Nigeria a dépassé l'Inde cette année pour devenir le pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, soit 87 millions selon la Brookings Institution basée à Washington. Au Nigeria, aux élections de février, il est probable que le chômage et la pauvreté dominent l'agenda des partis politiques en quête de suffrage. Selon l'analyste politique Lanre Osho, de nouvelles propositions de politique économique sont peu probables.
Ceux qui observent l'économie nigériane auront sans doute remarqué que l'économie est figée depuis un moment. Vous savez que nous avons une politique très singulière au Nigeria qui gèle notre économie à l'époque des élections.
Le Nigeria est sorti de sa pire récession en près de 3 décennies en septembre dernier et a connu des épisodes de croissance économique. Mais il n'y a pas eu d'impact positif quant au chômage et à la pauvreté. Le Nigeria doit créer 4 millions de nouveaux emplois par an pour inverser les tendances négatives. Un défi de taille pour le vainqueur de la présidentielle de février.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, ouverture cette semaine de la 5e session criminelle de la Cour d'appel de N'Djamena. Au total, 25 dossiers sont inscrits à son programme. De N'Djamena, André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Nous avons 16 cas de viol, des cas d'assassinat, des cas d'association de malfaiteurs, des cas de participation à un mouvement insurrectionnel, un cas de meurtre, un cas de détournement des mineurs, un cas d'enlèvement d'enfants.
Mokhtar Abdelhakim Doutoum, procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, citant la nature et le nombre des infractions inscrites au rôle de cette session criminelle dans sa réquisition. Le procureur général assure que ces accusés auront droit à un procès juste et équitable conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le principe consacré dans cette déclaration qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre audience sont les suivants. Droit à un procès équitable, article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Droit à la présomption d'innocence et droit à la défense, article 11 de la même déclaration. Droit à l'égalité devant la loi, article 7 de la même déclaration.
Le code de procédure pénale prévoit 2 sessions criminelles par an pour chaque cour criminelle en République du Tchad. Le secrétaire de l'ordre des avocats du Tchad, Djumadoum Kamtoké Emmanuel se réjouit du fait qu'en une année, la cour d'appel de N'Djamena est à sa 5e session criminelle. Il dénonce par ailleurs le caractère sélectif des dossiers pour cette session.
Déjà, j'ai été surpris par les infractions de viol qui occupent plus de la moitié du rôle. Mes attentes, c'est que les coupables soient punis et que les innocents soient purement et simplement acquittés. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu plusieurs sessions criminelles cette année, ce qui permet aux accusés d'être fixés sur leur sort.
Le procès tant attendu est celui de l'ex chef de guerre, le général Babalade, arrêté depuis plus de 4 ans pour rébellion et association des malfaiteurs. Son dossier passe le 5 décembre devant les juges de la cour d'appel. Pour le porte-parole du mouvement Action citoyenne pour l'application de l'amnistie au Tchad, Manga Jean Bosco, l'audience actuelle est sans objet puisque Babalade devrait logiquement bénéficier de l'amnistie générale signée par le président Déby.
Nous attendons que la session criminelle puisse juste prendre acte de l'existence de l'amnistie pour tous les anciens rebelles, quel que soit ce qu'ils ont fait. L'autorité publique a pris la décision de les amnistier. Donc c'est de prendre acte et de dire que l'audience actuelle, la session criminelle, n'a pas d'objet et que Babalade devait tout simplement être confirmé comme un amnistié et on doit le libérer purement et simplement.
Les autorités judiciaires justifient le fait qu'un tiers des dossiers inscrits au rôle concerne le viol par le fait que cette session se tient pendant la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La République démocratique du Congo traverse, comme vous le savez, la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans ce pays, avec plus de 420 cas recensés dans l'Est. Cette épidémie, la dixième en RDC, est particulièrement dure, car plus de 60% des patients sont des femmes. Anita Powell a visité 2 zones affectées par le virus. Morgane Guériac.
Bénédicte n'a qu'un mois, mais sa courte existence a déjà été bien difficile. Elle a passé les 3 dernières semaines de sa vie en isolement, coupée de tout contact humain. Sa mère, atteinte du virus Ebola, est morte en la mettant au monde. Elle est sous les soins constants d'une infirmière couverte de la tête aux pieds avec un équipement de protection. L'équipe médicale ne sait pas où se trouve son père et son avenir est incertain. Depuis le début du mois d'août, le virus Ebola a été diagnostiqué chez plus de 400 personnes, dont plus de la moitié sont mortes. C'est la deuxième pire épidémie d'Ebola après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. La maladie est d'autant plus compliquée à gérer que la zone où elle se propage est aussi le théâtre de plusieurs conflits armés. La région est un cocktail explosif sur lequel est venu se coller le virus Ebola. Pour le docteur Guido Cornale, coordonnateur de l'UNICEF dans la région, l'ampleur de l'épidémie est une évidence.
C'est devenu la pire épidémie au Congo, ce n'est pas un mystère.
Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi plus de 60% des cas sont des femmes. Le docteur Joloko Tambwe-Bat, coordinateur régional de la santé auprès du gouvernement.
Toutes les analyses faites démontrent que cette épidémie est très féminisée. Les chiffres sont quand même alarmants. Il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici.
Le docteur Bat refuse de dire ou prédire la fin de l'épidémie. Mais des responsables d'organismes internationaux de santé estiment que cela pourrait durer encore 6 mois. En attendant, d'après le docteur Cornale, les épidémiologistes essaient de comprendre pourquoi le virus Ebola affecte autant de femmes et d'enfants.
Pour l'heure, on ne peut qu'essayer de deviner. L'une des hypothèses est que les femmes s'occupent des personnes malades à la maison. Donc si un membre de la famille tombe malade, qui s'en occupe? Une femme, normalement.
Une femme, une mère, une épouse ou une infirmière, d'autant que beaucoup de personnes touchées sont des agents de santé. L'infirmière Guylaine Moulindois-Massika a passé 16 jours auprès d'une patiente qui lui a transmis le virus. C'était le combat de sa vie, un combat pour survivre.
Ce sont des douleurs énormes, en tout cas des douleurs vives, des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des... Ce n'est pas des affaiblissements là, donc on est très malaisé là-bas.
Pour les malades, le chemin de la guérison est long et solitaire. Massika et ses collègues ont dû s'absenter du travail, être en réclusion pendant au moins 3 semaines pour s'assurer que le risque d'infection a disparu. Dans le principal hôpital de Beni, les familles qui se sont rétablies vivent ensemble sous une grande tente blanche séparée de contact humain grâce à un cordon en plastique orange vif. Ils disent bonjour à leurs gardiens et qui doivent enfiler des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher d'eux.
Raissa Girondin avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la Confédération africaine de football a 1 mois pour faire un nouvel appel à candidature. Selon le président de la CAF, le Cameroun organisera désormais la CAN en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Comment expliquer son incapacité à construire dans les délais les infrastructures pour abriter cette grande messe sportive? Quelles seront les conséquences pour la CAN 2019 qui va l'organiser? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel. Show.
Sabe peut-être. Bah. Toi et ton mi weno ayo. Moule ma mami mumu bae. Toi et ton mi weno ayo. Moule ma mami mumu bae. Ça c'est chouchou.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.